Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Bonjour à tous, bon dimanche, Place du Marché. J'aime beaucoup recevoir des pâtissiers dans cette émission parce que le dimanche, c'est le jour des gâteaux. Encore plus que les autres jours. Et ce dimanche, encore plus que les autres dimanches. Car c'est celui de l'épiphanie, la fête des rois. Que la majorité d'entre vous, même beaucoup de ceux qui ne sont pas chrétiens, heureusement, profitent pour se régaler d'une galette ou d'un gâteau des rois. Alors, vous me direz, c'est pas bien de détourner les pâtissiers de leur ouvrage, hein, de les faire venir le dimanche matin, le jour de l'épiphanie, ici en studio. Rassurez-vous, à 10h du matin, le pâtissier a fini son ouvrage, en général, hein, depuis longtemps, et les galettes sont en boutique, entre les mains des vendeuses et des vendeurs. Sauf que le pâtissier de restaurant, lui, il travaille encore pendant le service, hein, s'il y a un déjeuner. En tout cas, j'ai avec moi journaliste spécialisé et pâtissier de boutique et de restaurant. Comme ça, on fait le point sur tout. Et je vous les présente tout de suite. Bonjour Claire Pichon.
Bonjour Vincent.
Alors Claire, vous êtes la rédactrice en chef adjointe de Food Pâtisserie et Food Cuisine, mais plus aujourd'hui Food Pâtisserie, hein, qui nous occupe.
Ah, aujourd'hui, oui. On est plus là pour la pâtisserie.
Revue grand public pour les dingues de pâtisserie qui sont de plus en plus nombreux chaque année, il faut le signaler.
Ah oui, oui, donc, tout à fait. Là, c'est vraiment une passion française qui se révèle et on est très heureux de pouvoir partager ça avec nos lecteurs.
Oui, puis vous avez eu la bonne idée à Food Pâtisserie d'ouvrir des sortes de boutiques éphémères,
hein,
pour faire à un moment donné, je dirais, comme des expositions de peinture pour des pâtissiers. C'est-à-dire alors, mettre en lumière un pâtissier dans vos magasins.
Exactement, exactement. Ça arrive régulièrement. On a des pâtissiers invités. Certains qui sont ici sont déjà venus et ça permet de mettre en lumière des pâtissiers qui, par exemple, n'ont pas d'accès au grand public, comme les pâtissiers de palace ou des pâtissiers qui sont à l'étranger, enfin certaines choses, voilà.
Alors, je vous ai demandé évidemment d'être là pour vivre cette galette avec nous et nous donner votre sélection dans quelques instants. Et vous n'êtes pas la seule en question, parce que vous êtes presque grand public, hein, vous adressez évidemment aux amateurs, mais il y a aussi quelqu'un au téléphone avec nous parce qu'il est en train de boucler son journal, comme on dit, de terminer, de mettre la dernière main. Le dressage final de son journal, c'est Franck Lacroix du Journal du Pâtissier. Bonjour Franck.
Bonjour Vincent, bonjour à tous et à toutes.
Merci d'avoir pris un petit temps, une petite heure pour passer avec nous ce moment et pour parler de la pâtisserie, mais d'un point de vue professionnel. Ça fait combien de temps le Journal du Pâtissier que ça existe ?
1978.
Ouais. Comme quoi, hein,
dis-donc. Vous n'étiez pas né.
Presque pas. Un petit peu quand même. Hein. Mais ce qu'il faut dire, c'est que vous avez vécu, on va dire, en backstage, hein, dans les coulisses, hein, puisque vous êtes souvent dans les labos, derrière la boutique, toute cette évolution de la pâtisserie française qui est devenue maintenant carrément une lumière qui brille sur le monde.
Ah ouais. Ah bah, la pâtisserie française, c'est la meilleure pâtisserie du monde, point final.
Il y en a même qui disent la seule.
Alors,
n'exagérons pas,
il y a du mauvais goût partout sur la planète, mais le meilleur goût est en France.
Voilà. Alors Franck Lacroix, vous aussi, je vous ai demandé votre sélection, dans la sélection de chacun d'entre vous, il y avait notamment les deux pâtissiers que nous accueillons aujourd'hui, à commencer par Jean-Christophe Janson, qui est meilleur ouvrier de France depuis presque 2 ans maintenant. Hein.
C'est ça. Session 2019, mais finale en 2018.
C'est ça. Et je vois que vous ne mettez pas le col bleu blanc rouge, ça y est, vous êtes trop habitué, Jean-Christophe.
non, on est en studio, c'est voilà. Vincent, alors bonjour à tous, pardon, bonjour
oui.
Vincent.
Alors attendez, je dis quand même que vous êtes le chef pâtissier de la maison Le Nôtre, que tout le monde connaît, et donc comme ça, voilà, la boucle est bouclée.
Voilà, et donc pas de veste, parce que les règles d'hygiène nous imposent de garder nos vestes dans les ateliers.
Eh oui.
Voilà, donc
et
c'est
puis,
pour ça que...
On ne sait pas le genre de microbe qu'on peut trouver dans les radios, hein, dans tout ça, et remporter avec soi dans le labo. Et puis à côté de vous, un jeune pâtissier déjà bien connu, Michael Bartocchetti. Bonjour Michael.
Bonjour Vincent, bonjour
le
à toutes et à tous.
Le tout nouveau chef pâtissier de l'hôtel Georges V à Paris.
Hein, exactement.
Un palace très connu. Et vous travaillez notamment avec Christian Lesquer, le chef ultra connu. Mais il y a aussi à côté Simone Zanoni.
Et Alain Taudon.
Et Alain Taudon qui a repris l'orangerie. Enfin voilà, vraiment c'est un milieu extrêmement gastronomique. Vous vous sentez bien là-dedans.
C'est un palace qui est très actif. Justement sur la gastronomie de restauration.
On dirait, si on est jeune, qui est très marqué food.
Très food, voilà.
Très food.
Ça résume bien
très
les choses.
Très food de Georges Zinc. Et vous étiez au Shangri-La avant. Donc vous,
exactement,
vous êtes tout nouvellement arrivé il y a quelques mois.
C'est ça, j'ai passé 4 ans et demi au Shangri-La et je suis arrivé au Georges Zinc le 7 octobre.
Voilà, le 7 octobre.
Juste avant les fêtes.
Et alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, ça ne durera pas longtemps, Michael, parce que votre talent, il est déjà reconnu dans la profession. On va en parler à travers les galettes que vous avez apportées. Mais vous êtes fait connaître parce que vous avez mis en lumière une pâtisserie végétalienne quand vous étiez au Shangri-La, c'est-à-dire dénuée de tout produit animaux.
C'est ça, dénué de toute protéine animale. On a mis en place un tea time vegan en soi. D'une part parce que c'était un vrai challenge pour nous à l'époque et d'autre part parce qu'il y avait une certaine demande qui était grandissante de la part des clients et donc aujourd'hui c'est aussi intéressant d'avoir cette expertise là
bien sûr
en plus dans nos bagages pour répondre justement aux demandes de la clientèle.
Oui, parce que généralement dans les restaurants, alors dans les grands hôtels, comme il y a une demande de plus en plus, je dirais appuyée du tourisme et surtout des Américains pour une cuisine végétalienne, donc s'ils ne fassent absolument pas appel aux produits d'origine animale, la pâtisserie était un peu délaissée. C'est alors qu'on leur faisait un repas végétalien et puis au moment du dessert, on leur apportait des fruits, quoi, ou des compotes.
C'est ça, c'est souvent une salade de fruits, c'était souvent une réaction un peu dans l'urgence, parce que demande dernière minute. Et je pense que dans un palace, on se doit de desservir, enfin d'assouvir les envies de tous les,
sûr,
de tous
sûr,
les clients.
Faire plaisir à tout le monde.
Et c'était important aussi pour moi de pouvoir proposer quelque chose qui était construit et abouti, même à ce niveau vegan en soi.
Michael, ça vous gêne pas, on va parler quand même beaucoup de beurre dans cette émission.
Ah oui, on
va
parler beaucoup de beurre.
Ouais. Parce que vous êtes originaire de Thionville et la pâtisserie lorraine et alsacienne, elle met quand même pas mal de beurre.
Elle est riche,
on aime ça. Et Jean-Christophe, lui aussi, il aime bien le beurre. La maison Lenôtre est même connue pour son feuilletage.
Ah bah c'est clair, ouais. Monsieur Lenôtre était normand.
Bah oui.
Donc il a été un des premiers à remettre le beurre dans les pâtisseries d'ailleurs.
Premier à remettre le beurre. Pourquoi, enfin, il y a quelqu'un qui l'avait enlevé?
Oui. Non, à remplacer la margarine par
ouais,
le beurre.
Non, ouais. Vous avez raison. Ouais. Vous avez raison parce qu'à une époque, la margarine c'était moins cher.
C'est ça.
Et aujourd'hui, que la margarine ça coûte grosso modo pratiquement le même prix que le beurre, on se dit pourquoi mettre de la margarine si Claire Pichon.
Ah hein, oui,
c'est
non,
dommage.
Vraiment.
Enfin, sauf si on est vraiment végétalien.
Sauf
quoi.
Si on a pour des raisons politiques ou de régime alimentaire spécial. Franchement, quel. Non, beurre.
Alors je me tourne vers notre maître Capello de la galette, Franck Lacroix, au téléphone du journal du pâtissier. Franck, d'où est-ce qu'elle vient, cette galette? Les origines se perdent jusque dans l'Antiquité?
Ah bah, on peut remonter à l'homme préhistorique qui avait rien d'autre que le pauvre à cuire trois conneries sur un feu de bois. Mais ensuite, ça s'est plus ou moins aristocratisé.
Ouais, ouais.
Et puis, le beau moment, ça a été Louis XIV, quoi.
Ah oui, c'est là que ça a éclaté?
Ah bah lui, il a fait la fête des rois, hein, le premier servi. Et puis ensuite, on peut dire que la vraie révolution contemporaine, c'est début du XVIIIe siècle, où les boulangers, eux, voulaient entreprendre la fabrication de la galette et en faire cadeau à leurs clients le jour des rois.
Ouais.
Mais un arrêt du Parlement intervint et dit non, les boulangers restaient au pain, ceci revient aux pâtissiers. Alors après, on a vite oublié. Les boulangers vexés ont quand même fait des galettes où ils mettaient un louis d'or dedans et le client qui trouvait le louis d'or rapportait le louis d'or et avait le droit à une galette gratuite.
Pas mal.
Et puis ensuite,
mais c'était toujours le roi qui gagnait. Hein, c'était toujours Louis XIV.
Sauf pendant la Révolution. Hein.
Ah oui, là on s'est planqué un peu. Oui.
La fête des sans-culottes, la fête servait à désigner celui chez qui aurait lieu le festin.
Ah bon, je croyais que c'était celui à qui on couperait la tête. c'est pas drôle, ça.
Il y a eu aussi 1975 où le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, avait décidé de faire la galette à l'Élysée
pour rendre
honneur vous étiez né?
Oui, enfin, tout juste.
Ah, c'est ça. Les boulangers viennent avec une grande galette d'1,20 m de diamètre, d'ailleurs deux galettes, mais il n'y a pas de fèves dedans parce que la République ne supporte pas les rois.
Ah, évidemment. Hein, d'ailleurs, je rappelle que je fais une petite digression parce que j'avais adoré. À Monaco, le camembert président s'appelle le Monseigneur. Vous le saviez, ça? Je vous jure, sur l'étiquette, le Monseigneur, parce qu'il ne supporterait pas d'avoir un président à Monaco. Voilà, petit aparté. On revient tout de suite, place du marché, dans une seconde, pour parler un peu du palmarès de ces spécialistes de la galette. Croyez-moi, ici, ça sent bon le beurre.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Allez, de retour, Place du Marché, dans les boulangeries et les pâtisseries. Oui, il ne faut pas oublier les boulangers, hein, parce que ce sont quand même eux qui sont à l'origine de cette belle habitude que nous avons le normalement 6, c'est-à-dire demain, mais le dimanche d'avant, bah voilà, hein, c'est déjà l'épiphanie, déjà la fête des rois. Et nous parlons aujourd'hui donc de ces galettes qui nous font rêver toute l'année. Justement, Claire Pichon, est-ce qu'elles nous font pas rêver parce qu'elles sont vraiment contingentées à une époque limitée?
Ben moi je crois. Il y a vraiment, c'est une période. On s'en met jusque là.
Ouais, c'est
et
ça.
Après on a 11 mois
de galettes, mais oh, au ouais. moins c'est 3 semaines, quoi, ouais. pas plus, quoi.
D'ailleurs. Donc c'est la fête. C'est au cœur de l'hiver. Donc on a faim, on a besoin de se réconforter. Donc on sort de Noël, donc on diminue, oui, on baisse en tour.
On a été très mal nourris.
Voilà. Donc on passe un peu à la soupe et on se réconforte quand même avec une part de galette.
Ouais, c'est ça, on fait moite-moite.
C'est comme la fête après la fête.
Franck Lacroix, cette galette, vous nous disiez juste avant la pause que elle a évolué là en 20 ans d'une façon incroyable.
Oui.
Très honnêtement, on sortait pas. D'abord, il y avait la sèche ou la fourrée à la base.
Voilà. Après, il y a eu la ronde, il y a eu la carrée, il y a eu la rectangulaire. Mmh. Il y a même eu, il y a 15 ans, à la Maison Le Nôtre, une salée, une
ouais.
version apéritif,
ouais.
qui contrebalançait une croquante à l'ananas en forme de rosace. Mmh. Et puis, maintenant...
On ne peut pas échapper... Non, je vois Jean-Christophe fait oui. Jean-Christophe Janson, on ne peut pas échapper à l'œil de Franck Lacroix, hein, dans le métier.
Ah bah non,
il a tout noté.
Il a un œil, c'est laser. Hein.
Donc, la galette...
Et une mémoire...
Jean-Christophe, excusez-moi, hein, Franck. Jean-Christophe, lorsque Franck se réfère à une galette salée, à l'origine, la galette sèche, elle est plutôt salée. Enfin, même si elle n'est pas sucrée, elle est une galette qui n'a pas de fourrage à l'intérieur. Elle est plutôt salée.
Elle est tout venant. On peut l'avoir en apéro et la manger comme ça parce que on met toujours un peu de sel dans le feuilletage. Et comme elle n'est pas fourrée de sucre, tu as raison. Elle est vraiment agréable à tout moment.
Voilà, c'est ça. On peut même y mettre une sorte de sauce mornay à l'intérieur, une béchamel au fromage, quoi.
Exactement.
Non, mais faire comme un feuilleté au fromage, quoi.
C'est hein ça.
Quoi,
c'est
Franck, ça. Qu'est-ce qu'il y a, Franck? Qu'est-ce qui se passe?
Une galette, qu'est-ce que c'est? C'est dans la vitrine des espèces de soleils qui sont là et qui nous disent « Regardez comme ma pâte est bonne, regardez comme ma pâte est
bonne. » Ah, je pensais,
de beurre, vous
savez qu'on le retrouverait, le Franck, à un moment.
Vous sentez tout ça au milieu de la brume
et de la bien noirceur
d'un mois de janvier plein de grèves. Et bien regardez, voilà un soleil que vous offrent les pâtissiers.
Alors, et vous avez vu comme sa voix prend comme de l'écho,
animé,
comme
ouais.
s'il était au milieu d'une cathédrale de galettes. C'est ça qui est merveilleux. Alors donc cette galette, elle a changé et aujourd'hui, maintenant que nous sommes, alors là le passage d'une nouvelle décennie, je crois que ça va être, je ne sais pas ce qu'on pense Claire, je pense que ça va être l'avènement des pâtissiers face aux chefs cuisiniers. Hein, c'est fou comme ils ont pris la lumière là depuis 2-3 ans.
Oui, bah aujourd'hui, on reconnaît vraiment le chef pâtissier comme un chef à part entière, qui a un talent à part entière, qui fait un métier différent de celui du chef de cuisine, qui a sa propre créativité et qui donc mérite d'être tout autant sur le devant de la scène et de s'exprimer aussi comme un chef cuisinier et non plus d'être sous la coupe, ce qui était un petit peu la tradition avant. C'est-à-dire que le pâtissier était embauché pour faire partie d'une brigade de restaurant et était sous la coupe d'un chef cuisinier. Aujourd'hui, c'est en train de disparaître.
Franck Lacroix, ça fait combien de temps que vous travaillez dans ce milieu professionnel de la pâtisserie et que vous vivez dans la famille des chefs pâtissiers ?
1993.
Ça fait quelques années, donc.
Oui, 25 ans, dirons-nous.
Oui, et vous, vous avez commencé dans un milieu à peu près obscur, méconnu. Ça doit vous faire tellement chaud au cœur aujourd'hui que toute la lumière soit sur les pâtissiers. Vous en profitez, vous aussi ?
Alors, moi, ce qui me plaît, c'est de faire découvrir ce métier qui est un métier très difficile, qui demande beaucoup de temps, de travail, une formation exemplaire. Et la pâtisserie, c'est vraiment l'école de la justesse. Dans un plat, on peut rajouter du sel, du poivre et hop, ni une ni deux, je te sers ça, tu te rends compte de rien. Si tu rates, si tu mets une composition où il y a 3 grammes de trop et une cuisson où il y a 3 secondes de trop... ton dessert, il est foutu. Mmh. Ce qui n'arrive pas aux cuisiniers, qui, c'est étrange, depuis quelques années, me disent tous, mais vous savez, moi, monsieur Lacroix, j'ai commencé par la pâtisserie.
Oui, c'est drôle, hein, comment on se revendique maintenant pâtissier de naissance. vous avez raison, Franck Lacroix. Michael Batuchetti, je disais, vous êtes donc le chef pâtissier de l'hôtel Georges V à Paris. Pourtant, vous avez commencé en boutique, vous. Vous avez...
J'ai commencé par la boutique, oui.
Vous avez changé, tourné votre veste à un moment donné.
Non, mais je pense que c'est important, important notamment dans l'hôtellerie, puisqu'on touche un peu à la restauration et à la pâtisserie de boutique en plus. C'est d'avoir une formation qui est complète, c'est-à-dire commencer par la boutique, ça nous permet de pouvoir maîtriser toutes les bases. Et une fois qu'on a ces bases, après, on en fait ce qu'on veut et on s'amuse avec tout ça, justement.
Oui, mais en restauration, on peut faire de la pâtisserie du dessert en live.
Exactement, hein, c'est-à-dire c'est beaucoup
qu'il
plus
va
instinctif.
Servir au moment. Alors que c'est comme le traiteur, le pâtissier boutique, c'est quelqu'un qui travaille en amont A pour B ou A pour A et demi. Enfin...
Mais c'est pour ça que c'est totalement une autre organisation. C'est-à-dire qu'avant chaque service, en restauration, voilà, on va tout préparer pour
faire une mise en place.
Pour dresser les desserts du service du déjeuner ou du dîner. Et ça va être un travail qui est deux fois par jour, donc déjeuner-dîner. En boutique, c'est totalement différent, c'est une autre organisation, puisque tous les matins, tôt le matin, les boutiques, elles ouvrent, il faut que les vitrines soient remplies.
Ouais.
Donc on va travailler beaucoup plus tôt le matin, voire même une partie de la nuit.
Et de la pâtisserie qui doit tenir.
Et voilà, et la pâtisserie doit être éclatante du matin jusqu'au soir.
Jusqu'à la consommation, qui est parfois même le lendemain, il faut le dire.
Et transportable.
Et transportable, merci de le préciser, Claire Pichon. Jean-Christophe Janson, la maison Le Nôtre, elle s'est fait, connaître justement par cette capacité à avoir une pâtisserie impeccable, quel que soit le moment de l'année, avec un très gros laboratoire à plaisir. Hein. Y a quoi comme équipe de pâtissiers là-bas, chez vous ?
La maison Le Nôtre, c'est 270 pâtissiers et autant de cuisiniers. Donc je pense que c'est unique au monde. Et en fait, c'est plus de 60 ans d'expérience. Et le combat de Monsieur Le Nôtre a toujours été de viser l'excellence et de s'entourer des meilleurs dans chaque métier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve, notamment dans nos ateliers, tous les métiers compartimentés par spécialité.
Mais l'esprit de Gaston Le Nôtre, il perdure chez Le Nôtre ?
Ah non, pas l'esprit, l'âme. C'est incroyable.
Oui, d'accord.
Dernièrement, Pierre Armé nous a rendu visite avec une partie des relais desserts. Il est ressorti.
C'est une association des grands pâtissiers, on peut dire.
Il dit, j'ai presque la larme à l'œil de voir que l'âme est restée. L'âme de Gaston est restée. Il dit, c'est incroyable.
Il est encore vivant.
Il y a une fierté d'appartenance. Il y a quelque chose. Faut le vivre pour le croire.
Comme chez Bocuse à Colombes.
C'est exactement ça. On leur doit d'ailleurs nos statuts. On leur doit tout, Monsieur Le Nôtre, Paul Bocuse,
Roger Berger, toute cette génération.
Voilà, c'est ça, ouais.
Bien, alors, on a beaucoup parlé du métier, mais on va plonger quand même le nez dans la galette. Avant la pause, je vais vous demander, Mickaël, qu'est-ce que vous nous avez apporté ?
Alors, moi, je vous ai ramené une galette, bien évidemment. Et après, c'est assez amusant de voir justement l'interprétation que tout le monde en a de cette galette tous les ans. Ça c'est assez amusant de voir un peu comment elle est interprétée.
Elle ressemblerait presque à un cugnamande. Pourtant, vous êtes lorrain, vous n'êtes pas breton.
Absolument, absolument. Mais parce que c'est le côté très caramélisé, très feuilleté apparent.
Ouais.
Et en fait, on a voulu jouer avec justement ces courbes un peu florales visuellement, et justement de mettre en valeur ce travail sur le feuilletage qui soit apparent. Et qui soit qui puisse refléter la gourmandise avec cette caramélisation intégrale avec une petite frangipane justement aux amandes, parce que pour moi la galette, il y a certains codes que je m'attends justement à retrouver lorsque je déguste une galette, c'est-à-dire cette frangipane aux amandes ou aux noisettes éventuellement.
En tout cas, fruits à coque.
Voilà, c'est ce côté feuilleté, gourmand, généreux, avec justement ce côté plus réconfortant de la frangipane. Moi, c'est ce que j'attends d'une galette, en tout cas.
Tout à l'heure, je vous ferai dire ce que c'est qu'une frangipane par rapport à une crème d'amande, parce qu'il y a encore beaucoup de confusion chez ceux qui nous écoutent. C'est normal, vous n'êtes pas des pâtissiers, tous, bien entendu. Et vous, Jean-Christophe Janson, qu'est-ce que vous nous avez apporté ?
Alors, j'ai rapporté la classique galette d'amande.
Eh oui.
De la maison Le Nôtre. Et,
indémodable.
La galette signature de cette année, qui est un pendant entre la galette amande et la brioche bordelaise, la couronne bordelaise.
Quand vous dites la couronne bordelaise, c'est ce fameux gâteau des rois, cette brioche aux fruits confits normalement.
Exactement. Mm-hmm. Et donc du coup, on s'est dit, on va faire un pendant entre les deux, un pont entre les deux. Et donc du coup, on a pris la pâte feuilletée de la galette, qu'on a mis en forme de couronne, comme la brioche bordelaise, et dans laquelle on a sorti du four. Donc ça cuit, c'est caramélisé dans le moule, sortie du four, quand c'est froid, on vient intégrer dans chaque part une crème pâtissière chocolat Madirofolo, avec allégé d'une crème légère et d'un zeste de citron.
Ah, m'a dit quoi ?
Madirofolo, c'est Madagascar, c'est... pardon.
Ah d'accord, voilà. C'est un cru de Madagascar, voilà. C'est ça, pour ce qui concerne le cacao.
C'est ça, et donc du coup, vous avez quelque chose qui est croustillant et crémeux à l'intérieur et très léger.
Voilà. Tout à l'heure, je vais vous demander de rentrer un petit peu dans la recette, de donner des trucs à ceux qui nous écoutent. Mais tout de suite, après cette petite page de publicité, comme on dit, on va demander à Claire Pichon, du journal du pâtissier, et à Franck Lacroix... j'ai tout inversé. À Franck Lacroix, du journal du pâtissier, et Claire Pichon, de Food Pâtisserie, de nous donner leur palmarès, parce que je sais que vous écoutez aussi pour aller acheter vos galettes et aller au bon endroit. Ne quittez pas, on est là.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Fernion.
Allez, nous revoilà, place du marché. D'ailleurs, regardez, si vous regardez bien au fond de la place du marché, il y a une pâtisserie et une boulangerie. C'est signe qu'on va goûter de la galette ce matin. Et justement, j'ai demandé à Claire Pichon de Food Pâtisserie d'être avec nous. Claire et Franck Lacroix est toujours avec nous au téléphone. Merci Franck, un bel effort pour un dimanche matin, ça je dois dire. On va vous demander votre palmarès dans une seconde. Oui, la sélection, c'est importante parce que vous êtes des prescripteurs, tant pour le grand public que pour les professionnels. Et au moment du choix, c'est très compliqué. Quand on a envie de se payer la belle galette, qui généralement ne voyage pas, parce qu'il y a des gâteaux qu'on peut envoyer à travers la France, mais là, c'est, évidemment, on va aller plutôt, si on n'est pas dans des grandes métropoles, on va aller plutôt chercher celle qui est en bas de chez soi. Mais quand on a le choix et qu'on passe dans des grandes villes, Claire,
ça vaut le coup.
Alors, qu'est-ce que vous avez identifié dans le Food Pâtisserie ?
C'est un travail qui a été fait avec Stéphane Milanès, qui est le journaliste qu'on aime beaucoup, effectivement, et qui a mené cette sélection avec beaucoup de rigueur. Plus qu'un palmarès, j'aime bien parler, c'est une sélection d'un travail de grande qualité, évidemment, et qu'on trouve représentatif de qu'est-ce que c'est la pâtisserie, la haute pâtisserie aujourd'hui.
C'est un état des lieux. À travers les galettes. D'accord.
Exactement. Et il y a eu beaucoup, vraiment de très, très belles choses. Cette année, la pâtisserie française se porte très bien. Donc, effectivement, le choix était difficile, mais c'était un bon problème.
C'est un problème de riche, comme on dit. S'il y en a trop, tant mieux.
Exactement.
Pour le consommateur, en tout cas.
Alors, comme vous disiez, effectivement, nous, c'est vrai que dans la sélection du magazine, on a retenu la galette de Le Nôtre et la galette de Michael.
Eh bien, c'est à ce titre qu'ils sont là aussi. Sinon, vous doutez bien que s'ils n'avaient pas été dans le palmarès, jamais je les aurais reçus.
Ça aurait été dommage. Et je dois te dire que toutes les deux, dans un style très différent, ce qui nous a plu, c'est ce travail sur le feuilletage. C'est-à-dire qu'à la fois, ce sont des galettes avec une allure très brute. Vous n'avez pas de décor en sucre soufflé.
Non, effectivement.
Pas de colorant, rien du tout.
Contrairement aux gâteaux qui sont souvent extrêmement design.
On est vraiment dans le brut, on est dans le feuilletage. Et pourtant, elles sont toutes les deux très spectaculaires, très raffinées. C'est vraiment des petites œuvres d'art.
Vous approuvez, Franck, ce qu'est en train de dire votre consoeur ?
Je plus sois.
Pardon ?
Il plus sois.
Je plus sois.
Ah, vous plus soyez ? Très bien. Plus soyez donc, c'est bien. Dans le silence, de plus soyez dans le silence. Parfois, on brille plus par son absence que par sa présence. Vous en êtes l'illustration, Franck, là, sur ce coup-là. Mais allez, continuez, Claire.
Oui, et donc, c'est ce qui nous a séduit. Après, évidemment, elles sont absolument délicieuses, absolument remarquables. Vous pouvez y aller les yeux fermés, mais on est vraiment sur de la très haute pâtisserie. On a aussi beaucoup aimé la galette, qui est une collaboration entre Nina Métayer, qui est une pâtissière qui a travaillé notamment avec Jean-François Piège, qui en ce moment est indépendante, et qui a fait une collaboration avec une jeune boulangerie qu'on aime beaucoup, qui s'appelle The French Bastards, qui est une boulangerie un peu rock'n'roll, mais franchement, ils travaillent très sérieusement. Et elle a fait.
Ils sont bien. Très actifs sur les réseaux sociaux. Moi, je les suis sur Instagram. Et il y a des choses extrêmement alléchantes.
Et puis c'est un bon prix. Franchement, moi j'aimerais bien habiter ce quartier-là. C'est une boulangerie sympa à avoir autour de chez soi. Ils ont plein d'idées. C'est vraiment des gens sympas.
French Pastards à Paris.
Ils aiment bien faire des collaborations avec différentes personnalités de la cuisine, de la pâtisserie.
D'accord.
Et elle a fait pour eux une galette avec juste une pointe de cannelle, traditionnelle, mais vraiment juste cette pointe de cannelle qui est délicieuse. Et avec une toute petite tuile sur le dessus en forme de rosace de Notre-Dame.
C'est très beau.
C'est super
beau. Très belle.
C'est une belle idée hein, d'avoir repris cette rosace et je pense qu'elle a marqué les esprits.
Oui.
Hein, pour ceux qui ont vu passer.
À juste titre, hein, vraiment, on a trouvé que c'était,
un bel hommage,
c'était poétique. C'est un hommage. Et la galette est merveilleuse. Et moi, je dois dire, cette petite pointe de cannelle, même si vous craignez la cannelle, je peux pas vous dire, c'est délicatissime.
C'est pas que je crains, c'est j'aborde la cannelle. Mais c'est pas grave, c'est pas pour moi, mais bon, ça fera plaisir à plein de monde.
Peut-être éviter, mais vraiment, vraiment, elle est chouette. On a aussi, sélectionné une des galettes de la maison Hugo et Victor, qui est une galette qui s'appelle la Liroise, qui est garnie d'une crème au citron. Donc là, on est sur quelque chose qui s'éloigne de la galette traditionnelle, mais c'est super gourmand.
Quand vous dites crème au citron, c'est un peu comme un lemon curd, c'est-à-dire
non,
un truc
c'est
très...
plus, c'est plus presque comme une.
Il y a la crème,
non, c'est pas une frangipane. C'est vraiment une crème, crème fouettée, avec du citron. Enfin, c'est quelque chose de très onctueux, de très riche. C'est avec des zestes. Ça change et ça fonctionne très bien avec le feuilletage. Donc là, on est sur quelque chose. Peut-être si vous cherchez une galette qui sorte de la frangipane, il y a des gens qui aiment moins ça. Là, on a vraiment aussi un travail de pâtissier qui est assez formidable et qui est délicieux. Et puis, alors, dans le genre très traditionnel, on a une galette que Stéphane Maisonnette a repérée à Amboise,
très
de la
bien.
Maison Bigot.
Ah bah voilà. Oui, qui fait le coin devant le château.
Et ben voilà, pratiquement. Exactement. Mmh. Et là, qu'il a vraiment séduit, qu'il a marqué. Donc
pourquoi
excellente galette. Qu'est-ce que
mais
vous voulez dire
quoi.
Tradit, mais qui touche le cœur, qui prend au trip, comme quand on tombe sur quelque chose d'excellent.
Oui, parce qu'ils sont assez forts dans le coin, parce qu'à Tours, qui est quand même qu'à quelques kilomètres, il y a le fameux macaron de Tours, qui est une sorte de macaronade dans une pâte feuilletée, brisée peut-être, remarquée. Mais en tout cas, ce côté amande est très présent là en Vallée de la Loire, puis c'est la Vallée des Rois, hein, donc il est normal qu'en Vallée des Rois, Amboise, Ville Royale, on fasse une belle galette des Rois. Ok, génial, ça fait plaisir qu'à Amboise, il y ait là, comme ça, une petite adresse, la Maison Bigot, maison très tradie. Franck Lacroix, je vous laisse donner votre sélection, s'il vous plaît.
Avec plaisir, Vincent. Bon, bah, d'abord, rendons hommage aux trois très forts. Hein. C'est-à-dire, y a Pierre Hermé, bien sûr.
Hein, bien sûr.
Avec sa brioche des rois infiniment pralinée noisette.
Vous me parlez au cœur directement, là, vous le savez, hein, dès qu'on parle noisette.
Il y a des noisettes craquantes et garnies de pralinées maison, à la fois fondant et croustillant, le tout légèrement caramélisé. C'est exquis. Hein.
Il n'y a rien à dire. Hein.
Et puis, Jean-Paul Évin, parce que le roi... Il faut rappeler que Jean-Paul Évin, le meilleur chocolatier du monde, est un meilleur ouvrier de France.
Vous êtes un peu de parti pris, quand même, là, non ?
Non, vous allez comprendre, parce que c'est un meilleur ouvrier de France pâtissier. Donc, moi, j'adore quand un pâtissier est meilleur que les chocolatiers. Et puis, sinon, donc, ce Jean-Paul Évin, lui, nous fait une épiphanie sous le signe de la coccinelle, le petit animal porte-bonheur, où il a fait mi-feuilleté nature et chocolat noir, et puis elle est surtout garnie de crème d'amande à l'orange, ponctuée de pépites de chocolat qui viennent tchouk-tchouk-tchouk dans la mâche et vous apporter un peu de réconfort. Ça, c'est intéressant.
Qu'est-ce que vous faites bien la mâche ? Le tchouk-tchouk-tchouk était extrêmement parlant, Franck.
Oui, je suis brutiste, à mon avis. Et puis, il y a la maison Le Nôtre, parce que c'est pas parce que Jean-Christophe est là, même si je considère que c'est un des meilleurs ouvriers de France du monde, parce que vraiment, c'est un gars qui donne tout à la pâtisserie et lui rend bien.
Et sa famille aussi, hein. Il est très attaché à son lieu familial.
Et c'est une belle personne. Et ça fait plaisir. Alors chez eux, c'est la fameuse, il en a parlé, hein, c'est sa réinterprétation de la brioche bordelaise.
Oui,
parce que là, si vous voulez, elle est fourrée d'un moelleux aux amandes et noisettes, légèrement caramélisée. Et puis il y a cette crème au chocolat parfumé zeste de citron poché au dernier moment qui fait que ce chocolat vient et la fin de bouche est dans ces agrumes confits en décor, ce qui fait que c'était vraiment un régal. C'est vraiment on croque dans un morceau de soleil au milieu du brouillard de janvier et ça fait vraiment plaisir.
Oh là là, qu'est-ce que vous parlez bien, Franck. Puis alors, je vais ajouter quelque chose. C'est vrai que Jean-Christophe, le chocolat de Madagascar, il est acidulé naturellement.
C'est ça, très fruité. Hein,
donc il répond bien avec le citron. Je pense que ça donne encore une note supplémentaire. Ça désucre aussi.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Bon, voilà.
C'est 68% de cacao, de mémoire. Mmh. C'est un très très beau mariage.
Bon, mais génial. Franck, là, vous l'avez bien vendu, comme on dit.
Ah bah, et puis, on en profite pour saluer les 270 pâtissiers et cuisiniers 270 aussi, qui font de cette maison une maison quand même unique au monde.
Hors pair, absolument. Unique. Allez, encore de la sélection, encore de l'histoire.
Allez, encore un meilleur ouvrier de France, là c'est Arnaud Larère, parce que Arnaud Larère a trois boutiques à Paris et il en a une à Athènes.
Un breton de la butte, de la butte Montmartre.
Oui. Un breton qui, je le rappelle au plus jeune, quand il faisait son apprentissage, se tapait 14 km en vélo pour aller chez son patron. Hein. Donc qu'on ne me dise pas que oh, c'est dur hein, d'être pâtissier.
Effectivement. Non, mais ça, en tout cas, ça aide à tenir debout après toute la journée au labo. Hein.
Ouais.
Et comment alors, elle est, sa galette?
Alors, lui, il met une fine couche de pâte d'amande. Ça, ouais, c'est malin pour apporter du moelleux. Il met une crème d'amande parce qu'il a décidé d'être amande, belote, rebelote et 10 d'odeur d'amande.
C'est ça, au carré, amande au carré, quoi.
Et puis, ce que j'aime beaucoup, ça, c'est, écoutez bien les professionnels, il ne s'embête pas à mettre la fève dedans, mais il la donne au client. Mmh. Ce qui évite le client qui revient le lendemain avec un sourire de faux cul et qui dit « Ah bah, il n'y avait pas de fèves dedans !»
Vous allez m'en offrir une ?
Voilà.
C'est un peu ça l'histoire.
Donc ça, c'est... Et puis elle est très amande. Il faut aimer beaucoup l'amande. Et puis une petite dernière, parce que bien j'ai sûr trouvé ça astucieux, c'est Dominique Costa au Peninsula.
Alors, c'est un autre grand hôtel parisien.
Voilà, hein, qui est avenue Kléber.
Ah, juste hein, à côté de la place de l'Étoile. Oui.
Voilà. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis une crème d'amande associée à des éclats de noisettes effilées. Donc c'est bien, ça donne un peu de... Et puis avec un petit peu de fleurs d'oranger, un petit peu de soleil dedans. Ouais. Et puis surtout sur le dessus, il a mis une nuggetine de noisettes qui rajoute une mâche croustillante à souhait. Je vous la refais ? Allez.
Ah oui, oui. Oh le bruitage ! Vous avez de l'avenir dans le cinéma, hein, vous savez, on vous l'a dit. On vous l'a dit,
oui,
Franck
oui,
Lacroix.
Ah, bah oui, non mais j'ai arrêté, j'ai préféré la pâtisserie.
Mais je vous comprends. Alors, personnellement, je vais juste en ajouter une. Je le fais chaque année, mais je ne connais pas d'égal. C'est la galette aux pralines rouges de Richard Sève à Lyon, ouais, qui est extrêmement fine, qui est glacée avec un sirop de sucre sur le dessus qui donne un brillant miroir, et surtout de la mâche, parce que les amandes ne sont pas... C'est pas de la poudre d'amande, c'est des amandes broyées, concassées, et on retrouve cette mâche extraordinaire. J'adore cette galette. Et puis, j'ai juste demandé à Mickaël, parce que Franck évoquait la galette d'un de vos confrères, hein, ouais, au Peninsula. On peut aller acheter sa galette dans un grand hôtel parisien, un grand palace, sans prendre la suite royale. Il y a des galettes à emporter. Sûr. Non, parce que ça fait peur hein, quand
non,
on
non,
dit
sûr,
allez au Shangri-La, allez au Georges V, allez au Peninsula. Ben, oui, mais bon.
Non, justement, je pense que...
C'est un peu la mode,
beaucoup,
d'ailleurs.
Beaucoup de personnes hésitent à passer la porte de ces grands hôtels, palaces, etc. Mmh, parce que... Mmh. Parce que ça les freine.
Bien sûr, ça fait peur. C'est impressionnant.
Alors qu'en fait, finalement, ils peuvent tout à fait venir et ne serait-ce que s'installer. La pâtisserie est abordable pour tous,
bah
et
oui,
notamment
le
dans
time,
les hôtels aussi.
C'est ça. Hein, c'est quand même venir manger un petit gâteau dans un grand hôtel plutôt que dans la rue. Hein, enfin, je veux
exactement
dire, en général. Et puis, on peut aussi aller prendre son petit déjeuner sans avoir dormi dans ce grand hôtel.
Exactement. Hein, et sans se ruiner.
Un
bon
petit
ou
déjeuner,
sans on n'a pas besoin d'avoir un budget colossal justement pour se faire plaisir. Et je pense que si c'est pour ça que la pâtisserie s'est démocratisée.
Mais vous avez entièrement raison parce que les meilleurs, on va dire, les meilleurs restaurateurs, les meilleurs repas du monde, c'est 300 euros, 250, 300 euros. Hein, alors que le meilleur gâteau, il dépassera jamais 25 euros. Hein, si vraiment on va au plus cher. Mais grosso modo, pour 15 euros, on se fait autant plaisir, non ? C'est pas exactement ça, Franck Lacroix ?
Ah non, non. Non, Vincent. Ah bah non, si vous voulez des bons ingrédients, si vous voulez des amandes de Valence, des noisettes du Piémont et du beurre AOP, ça va pas coûter 15 balles. Hein.
Non, c'est pas 25 euros au maximum, un gâteau au Tea Time ?
Un individuel, en format individuel.
Oui, en format individuel,
ouais, bien sûr.
Oui, je te parlais en indiv.
Non, je parlais de galette.
Oui, mais
la
galette est un peu plus...
Ah ouais.
Bah bien sûr.
La plus chère de ma sélection, si vous voulez, avec sa nougatine des noisettes, c'est 118 euros.
Et la moins chère ?
La moins chère, on va dire que c'est 34 euros chez Jean-Paul Evin, c'est 36 euros chez Arnaud Larère, c'est 35 euros chez Pierre Hermé.
Pour 4 ou pour 6 ?
Alors là, on est sur 8 personnes. Hein.
Ah bon,
voilà, écoutez, ça reste abordable.
Là, ça reste raisonnable. Ouais. On est d'accord ?
Oui, mais on mange deux parts.
Ah, c'est donc ça le truc. Allez, on se retrouve dans une seconde avec nos pâtissiers, avec nos journalistes spécialistes pour parler un peu de ce qu'il y a dans les galettes. À tout de suite.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Fernio.
Mesdames et messieurs, Retour, place du marché, place de la pâtisserie en ce jour des rois, puisque, enfin c'est demain, mais c'est aujourd'hui, c'est pareil, ça dure pas très longtemps, on sait qu'on va goûter des galettes. On en aura peut-être un petit peu marre dans un mois, mais là, pour l'instant, on en est juste envie, une grosse envie, comme dit une certaine pub. Alors, je vais vous faire écouter un bruit, vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Maître. Oh, c'est horrible. C'est terrible ce qu'on leur fait là à nos auditeurs. Recommencez-moi ça. Là, le petit. Oh là 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 là. C'est Jean-Christophe Janson, le meilleur ouvrier de France, chef pâtissier chez Nonaut, qui est en train de couper la galette de son collègue Michael Bartocchetti du Georges V. Oh, c'est terrible. C'est un couteau à dents, j'imagine. Hein,
c'est ça.
Un couteau aussi. Oui, parce que vous avez entendu ce petit. Et alors, Michael.
Oui.
Commenter pourquoi ça fait tant de bruit, parce qu'il y a une résonance, elle est pas molle cette galette quoi, elle a une résistance.
C'est ça en fait, c'est d'avoir cet équilibre entre le moelleux, ce qui est vraiment réconfortant, la frangipane, ouais. Et le croustillant du feuilletage, c'est cet équilibre là qu'on recherche finalement dans la galette. Et bien évidemment quand on la coupe, si on n'entend pas ce bruit là, ça me décevrait un peu de ne pas entendre justement cette découpe de croustillante en fait.
Alors, Jean-Christophe Janson, qui, en bon camarade, vient de couper la galette de son collègue, l'a posée devant moi. Vous attendez pas à ce que je mange tout, quand même. Là, il y a quoi? Il y a 8000 calories, certainement, hein, dans
non
un...
seulement
un peu moins, un peu moins.
Vincent, non seulement j'attends pas, mais je compte pas, puisque oui. Je compte bien y goûter.
Oui, c'est ça, surtout. Alors, Michael, rappelez-moi ce qu'il y a dans votre galette. Parce que Michael Bartocchetti, qui était au Shangri-La, juste avant, un autre palace parisien, qui a fait tout son apprentissage en Lorraine, autre nation de la pâtisserie, hein, grâce au roi Stanislas Leszinski, qui était duc de Lorraine et roi de Pologne, et qui adorait les gâteaux, d'où l'invention du baba-au-rhum, du puits d'amour, puisque c'est les adaptations de la polonaise. Cette pâtisserie Lorraine, vous l'avez un peu laissée de côté en venant à Paris, puisque vous êtes fait connaître par une pâtisserie végétalienne, sans matière grasse animale. Mais là, c'est au beurre quand même.
Ah, bien sûr. Bien sûr que c'est du beurre.
Donc vous n'êtes pas un ayatollah du vegan?
Ah non, encore une fois, je le redis, c'était vraiment un challenge, répondre à une demande
d'accord,
client. Moi-même, je ne suis pas vegan.
Ah bah voilà, bah c'est très bien de ne pas être vegan puis de faire plaisir aux vegans. moi, je ne saurais pas faire. Mais je prends une part, hein, et vous me racontez que, d'abord, on dirait un feuilletage brioché.
Il est légèrement brioché, voilà. C'est un peu une pâte, alors excusez-moi le terme bâtarde, un peu, entre justement le feuilletage et la brioche feuilletée.
Ouais.
Donc c'est une base un peu de pain au lait feuilleté. Et justement, pour avoir quelque chose de moins brioché.
Attendez. Alors là, on rentre un peu dans la technique, hein, Jean-Christophe. Vous me dites, moi je vous dis brioche feuilletée, vous me dites non, pain au lait feuilleté.
C'est ça en fait. Ouais,
c'est quoi la différence?
C'est une pâte un peu moins riche à la base.
En beurre.
En œuf, en beurre. Voilà, elle est un peu moins riche, donc ouais. Un peu plus sèche. Donc ça se rapproche
donc
plus du feuilletage dans ce sens-là.
Un peu plus pain brioché que brioche.
Voilà, exactement. Donc finalement, on retourne aux sources quelque part.
Oui, mais c'est important parce que on le voit qu'il y a du volume dans votre galette. Hein, c'est pas un truc tout plat, c'est pas juste du feuilletage. Non. C'est-à-dire du beurre et de la
non,
baisse.
Il y a
de la levure.
C'est ça,
à un moment, ça gonfle.
Voilà, il y a une pousse avant cuisson. Et encore au four, elle va finir de gonfler. Et justement laisser apparaître justement toutes ces tranches de feuilletage qui vont se séparer avec la pâte et le beurre et ensuite au milieu bien évidemment la frangipane aux amandes, donc ce sont des amandes Valencia.
Ouais. Amande espagnole, mais alors.
Exactement.
Vous ne les mondez pas, hein, quand on regarde
non,
la couleur
exactement.
De la frangipane.
Je regarde la peau, parce que la peau de l'amande.
Elle a
un bon goût, justement. Je trouve que c'est un goût un peu plus brut, certes, mais voilà, elle ne dégage pas d'amertume.
Rustique, un peu voilà, rustique.
Ça reste très agréable, en fait. Et je préfère le parfum de l'amande avec sa peau qui est mondée.
Donc, en fait, on se rend compte que c'est à mi-chemin entre une galette Franck Lacroix et un gâteau des rois. Là, on est. Ou une sorte de Kuniaman galette. Franck.
Hommage aussi au fleuriste du Georges V, là,
oui.
Qui est depuis 20 ans, je crois.
Oh bah oui,
Michael.
C'est ça, oui, exactement.
Qui fait des compositions
Jeff, ouais.
Dans le hall d'entrée, absolument incroyable.
C'est pour ça, vraiment, il faut rentrer.
C'est d'ailleurs son travail qui nous a inspiré, justement, cette émission sur la galette. Ouais.
Ça sent tellement bon quand on rentre dans un moment, une parenthèse du monde, c'est merveilleux. Et il ne faut pas oublier que Michael est vraiment un vrai professionnel, parce que c'est vrai qu'il a appris chez Philippe Fischer à Uckange et puis à Thionville, mais ensuite il est passé par chez Cordel, ensuite il est passé chez Guy Savoie, ensuite il est passé au restaurant Benoît d'Alain Ducasse, et puis il était au Plaza Athénée.
Au Plaza Athénée, absolument. Hein.
Avant de rejoindre le Shangri-La. Et moi j'en profite pour lui dire que il a bien fait de ne pas continuer vegan parce qu'il ne fallait pas se spécialiser dans ce truc pour les gens qui...
Non mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien.
Mais il avait fait un renversant Mont Blanc vegan qui était une merveille. Marron cassis, tout en légèreté, sans blanc d'œuf, qui était une merveille. Donc moi j'attends beaucoup de Michael Bartocchetti maintenant.
Eh ben nous aussi, hein, tout le monde d'ailleurs, la France est à l'écoute. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, je vous décris en deux secondes. Hein. Il y a ce côté, une coque, comme une coque extérieure, comme un fruit à coque. La coque, c'est celle d'un cunyamane très caramélisé, qui va légèrement croustiller. Tout de suite, on plonge dans, bah, on va dire, dans, on est à mi-chemin, en fait, entre presque un biscuit aux amandes et un pain au lait. Hein, parce qu'il y a ce côté extrêmement moelleux, et puis au cœur, il y a cette frangipane rustique, rustique et goûteuse, pas trop sucrée. Hein, donc on est presque dans un... Je sais pas, on est entre le Bostock, le Cunyamin, la galette. Oui,
excusez-moi, Vincent, moi je suis bretonne et je peux pas vous laisser dire ça.
Ah, vous pouvez pas me laisser parler de Cunyamin en surface.
Parce que je trouve que ça ressemble pas tant que ça à un Cunyamin.
L'extérieur.
Bah, l'extérieur là, c'est une petite opaline, hein, si mes souvenirs sont bons.
Ça, c'est en fait c'est un caramel qu'on va broyer, une poudre, et voilà. qu'on va finement parsemer sur le dessus surface. Et voilà, qu'on va faire fondre au four.
Voilà, remettre au four. Et donc effectivement, il y a un côté croustillant, mais qui est beaucoup plus léger, ça colle pas aux dents comme un Cunyamin. Donc je voudrais pas que les gens après projettent quelque chose de cet ordre-là, parce que c'est sur quelque chose qui est beaucoup plus fin. Et
c'est ce que j'allais rajouter, voilà.
Moi je suis rustique. J'ai pas la finesse de Claire Pichon. Oui, Jean-Christophe.
Non, c'est vrai. On fait référence au Cunyamin et tout de suite. C'est riche, moi j'adore le Cunyamin. Mais là, c'est d'une légèreté.
Non, c'est...
Et c'est assez incroyable.
C'est très léger, effectivement. Très, très, puisque vous tenez le micro, Jean-Christophe Janson, dites-nous un peu ce qu'il y a dans votre gâteau, que je n'ai toujours pas goûté d'ailleurs. Mais je vais y venir, dites-moi.
Du coup, on va goûter ça.
Mais c'est au tour de Michael d'aller couper. Parlez-moi en attendant qu'il ait coupé une petite part, s'il vous plaît.
Donc, vous avez une pâte feuilletée. Donc... le pont entre la galette amande et la couronne bordelaise.
Mais alors, ça veut dire qu'on va tomber sur quelque chose qui est voisin ?
Non, pas du tout.
Ah, pas du tout. Bon. Ah non, parce que le pâtissier ne se laisse pas avoir là, comme ça. Hein.
Non, ça en fait, quand je dis pas du tout, c'est que c'est pas du tout le même type de pâte. C'est plus léger, c'est du croissant.
De la pâte à croissant. Il vient de tacler. Michael, c'est beaucoup plus léger.
Non, hein, c'est plus léger, c'est pas ce que je veux dire. Non, j'adore sa galette, elle est exceptionnelle. Mais en fait, c'est un croissant, pour vous donner un peu l'esprit
Tandis
de la texture.
Tandis que là, on était dans du pain au lait, là, on est plutôt dans la galette feuilletée, en fait,
voilà,
le croissant.
Voilà. Et donc, c'est fourré de cette crème pâtissière et d'un moelleux noisette, donc noisette française pour le coup.
Mais en fait, il y a une certaine parenté. Hein. Quand je regarde les deux,
bien sûr.
Il y a une certaine parenté, c'est-à-dire qu'on va fourrer d'un côté une sorte de pain au lait feuilleté, de l'autre côté un croissant, comme un croissant caramélisé.
C'est ça.
Donc on n'est pas loin dans l'idée. Hein. Je ne dis pas que vous avez évidemment la même galette du tout, mais enfin l'idée c'est quand même de partir d'un feuilletage plus léger.
Et de garder les codes surtout. Et je pense que c'est cet objectif qu'on s'est mis tous les deux. Quand je dis tous les deux, nous concernant, c'est un vrai travail d'équipe, évidemment. Où on voulait de la pâte feuilletée et un garnissage. Et pour le coup, pour avoir quelque chose de différent de la galette amande, on est parti sur de la noisette et du chocolat, avec une pointe de citron. Mais toujours dans cette volonté d'offrir quelque chose de différent de la galette amande.
Et de digeste, le plus digeste possible, bien que ce soit riche.
Ça reste la plus vendue, la galette amande. Donc je pense qu'elle est indétrônable, malgré tout.
Bon, mais alors, soyons clairs.
C'est un terrain d'expression différent.
On va laisser tomber le régime, même si on est après deux réveillons, deux réveillons qui ont été riches, pour la plupart d'entre nous, j'espère, en tout cas ceux qui le peuvent. On va se faire une dernière fois plaisir, transgresser toutes les règles de la diététique et se lâcher dans la galette pour cette période qui va durer, allez, grosso modo 2 semaines, hein, au bureau, à la maison, au travail, voilà. Donc, c'est à peu près ça. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier, on ne va pas parler de calories. Hein, je crois que ça ça nous rend mieux.
Parlons plaisir. Non, puis la pâtisserie, ça doit rester gourmand.
Ben voilà. En plus. Merci Franck Lacroix d'avoir été avec nous pour cette heure de gourmandise. Merci.
2020, petit et grand bonheur sucré, les garçons et les filles.
Bah, 2020 galettes, c'est juste ma dose. Merci Claire Pichon de nous avoir accompagnés.
Merci Vincent, c'est toujours un plaisir.
Avec votre sélection. Et messieurs, vous représentez dignement votre profession de pâtissier. Jean-Christophe Janson, meilleur ouvrier de France, chef pâtissier, le nôtre. Et Michael Bartoschetti, le chef de l'hôtel Georges V à Paris. Merci. Oui, Jean-Christophe, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, en fait, tout à l'heure, avec Guy Krenzer, à la boutique de Bastille,
oui.
On vous attend pour vous donner les mille et un secrets des galettes. Puisqu'on
mais
va
moi
faire...
tout seul ou tout le monde?
Tout le monde.
Ah bon, ah, bon j'ai eu peur. D'accord.
Puisqu'on va faire une animation galette et en donnant tous les secrets pour faire une belle galette à la maison.
Eh bien, j'espère que tout le monde pourra rejoindre Paris aisément. Hein, surtout avec les retours de vacances. Merci beaucoup Jean-Christophe, merci à vous tous
merci
d'être venus
Vincent,
faire votre
beaucoup.
Marché avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dimanche prochain à 10h, vous connaissez l'adresse Place du Marché sur Sud Radio. Et cette fois, on va calmer un petit peu le jeu. Après les fêtes de réveillon, leurs excès comme je vous le disais, après nos galettes, celles-ci, les bûches, on aura bien besoin de détox et de légèreté, oui un petit peu. Et quoi de mieux que l'eau? La cuisine à l'eau. Et quoi du mieux que de l'eau et des végétaux pour se reposer un peu l'estomac, vous l'avez compris. On va parler de soupe, de sous-soupe, rien de mieux pour commencer l'année. Et en plus, ça fait grandir, enfin, ceux qui n'ont pas fini leur croissance. Alors, bonne semaine, à dimanche prochain, 10h. Et d'ici là, ne grandissez pas trop avant la soupe. Bon dimanche.
Sud Radio, Place du Marché, dimanche 10h-11h.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.